CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à toutes et à tous, un MAG du pays Midi-Quercy où on retrouvera la chronique Les circuits courts, bonjour, où Marie-Agnès Brandy, la chargée de mission circuits courts au sein du PETR, rencontrera Frédéric Blondeau. Il est paysan herboriste à Saint-Antonin-Noble-Val et nous parlera plantes aromatiques, médicinales et sauvages. Ce sera pour la deuxième partie de cette édition, puisqu'avant ça, on célèbre le partenariat entre le pays Midi-Quercy et la Fondation du patrimoine. C'était le vendredi 10 septembre au matin au centre d'art et de design La Cuisine de Nègrepelisse. On entend Monsieur Jacques Calmette, le président du pays Midi-Quercy, Monsieur Bernard Belloc et Madame Marie-Dominique Heuss, représentants de la délégation régionale Occitanie-Pyrénées de la Fondation du patrimoine. Ils officialisaient leur partenariat.
Marie-Dominique Heuss, je suis déléguée de la Fondation pour le département du Tarn-et-Garonne.
Bernard Belloc, délégué de la Fondation du patrimoine pour le Tarn-et-Garonne également.
La Fondation du patrimoine, c'est quoi ?
La Fondation du patrimoine, c'est une fondation qui facilite le financement de la restauration et de la rénovation de biens patrimoniaux, qu'il s'agisse de biens immobiliers, qu'il s'agisse d'objets, qu'il s'agisse éventuellement de paysages. Et donc, elle mobilise les particuliers, elle mobilise les collectivités pour aider à ce financement.
En quoi la signature de convention avec les collectivités territoriales peut être utile pour les habitants, pour le patrimoine en lui-même, pour les collectivités ? Comment ça marche ?
L'objectif, c'est de vraiment démultiplier les possibilités d'information et de communication sur les actions de la Fondation et de faire circuler l'information dans les deux sens. La Fondation reçoit des demandes et les instruit. Et le pays Midi-Quercy a une connaissance fine et de proximité des projets susceptibles d'être aidés. Donc notre objectif, c'est vraiment de communiquer très très largement sur les objectifs, les projets des uns et des autres, et d'associer nos informations.
Vous êtes une vitrine, vous ne faites pas des critères de sélection en fait ?
Il n'y a pas de sélection à proprement parler. Il y a quand même un premier filtre qu'effectue la Fondation de manière à éviter les projets, disons, fantaisistes. Mais ensuite, les financements qu'apporte la Fondation, ce sont des défiscalisations, en fait, d'une partie au moins des frais engagés par les propriétaires, privés ou publics d'ailleurs, des biens. Les services de l'architecte des bâtiments de France interviennent pour donner leur avis sur les aspects techniques. Est-ce que le projet est pertinent ou non ? S'il est pertinent, de quelle manière il faudra réaliser la restauration, avec quelle technologie, etc., pour tenir compte éventuellement du contexte historique, culturel, local. Mais il n'y a pas de sélection, il n'y a pas d'arbitrage, parce que la Fondation ne distribue pas de budget, ne distribue pas d'argent. La Fondation aide à défiscaliser des dons que des mécènes particuliers ou entreprises peuvent faire pour restaurer le patrimoine.
Il y a du potentiel en Tarn-et-Garonne ?
Énormément.
Énormément, parce qu'on part d'assez bas, finalement, dans le Tarn-et-Garonne. Le Tarn-et-Garonne n'est pas un grand département industriel, mais tout de même, le chef-lieu du Tarn-et-Garonne est la deuxième ville de l'ex-région Midi-Pyrénées, après Toulouse, maintenant. Donc, il doit y avoir un certain potentiel économique. Et il faut mobiliser, effectivement, ce potentiel économique. Le Tarn-et-Garonne n'est pas un département pauvre de la région. Mais simplement, et comme Marie-Dominique le disait, et comme Jacques Calmette le disait, il faut d'abord informer des possibilités, s'informer mutuellement de ce qui se fait, notamment parce que le pays Midi-Quercy a une action très forte en matière d'inventaire du patrimoine certainement avec un objectif de maintien et de restauration de ce patrimoine. Mais ensuite, il faut mobiliser les gens, les mécènes, particuliers ou entreprises, qui ont envie d'aider à cette restauration. Cette mobilisation, effectivement, n'est pas encore tout à fait optimisée.
Et le potentiel, il est aussi énorme s'agissant des biens éligibles. C'est-à-dire que le Tarn-et-Garonne est particulièrement l'emprise des 49 communes du pays Midi-Quercy rassemble un nombre absolument exceptionnel de villages, de petites villes qui ont un cœur historique extraordinaire et des besoins en matière de restauration du patrimoine qui sont énormes. Donc il y a vraiment du travail à faire.
Jacques Helmet, président du PETR, aujourd'hui en ce 10 septembre à l'Acropolis, on vient d'assister à la signature d'une convention entre donc le pays Midi-Quercy et la Fondation du patrimoine. Pourquoi ?
Bon, ben, je crois que les représentants de la Fondation vous ont dit l'essentiel. Nous sommes un vecteur d'échange et de communication avec ce territoire du pays Midi-Quercy. On a des moyens de communication et on a une relation étroite, notamment avec les élus. Nous nous sommes rendus compte que nous œuvrons, nous au niveau pays, au niveau de la Fondation, dans un même souci d'intérêt pour le patrimoine et éventuellement du patrimoine du territoire, éventuellement sa restauration, son amélioration. Nous avons deux sources d'informations distinctes. Nous avons décidé de les réunir pour potentialiser cela. Nous avons, ils ont à la Fondation des moyens pour éventuellement accompagner, aider les projets de rénovation, de restauration. Nous aussi, par la mobilisation de certains fonds locaux, voire européens, là aussi, il y a une évidence à se rapprocher, tout ça, pour l'intérêt des propriétaires de bâtiments qui sont sur le territoire, bâtiments qui possède un intérêt patrimonial évident. C'est notre mission, je veux dire, aider le territoire dans toutes ses composantes. Le patrimoine, et c'est une chance, puisque nous avons un territoire riche en matière de patrimoine de qualité. Mettons ensemble nos moyens pour faciliter donc ces propriétaires privés ou publics pour leur permettre d'améliorer ce patrimoine.
Vous avez déjà un service inventaire du patrimoine en pays Midi-Quercy. Vous avez un service Rénov Occitanie qui permet aux particuliers de faire appel à vous pour voir quelles aides sont possibles, faisables. Et vous vous proposez aussi là, du coup, d'être une passerelle entre la Fondation du patrimoine et les habitants.
Alors, bien évidemment, notre intérêt pour le patrimoine du territoire, il se concrétise fortement par l'inventaire du patrimoine depuis 15 ans, qui est un lieu, j'allais dire, de connaissances, de compétences, de savoir sur les richesses de notre patrimoine. Dans tous ces gens qui sont rencontrés à travers cette mission d'inventaire, dans chacun des villages, au fur et à mesure de l'avancement de ce travail, on va trouver des gens qui pourront nous trouver bénéfice à être accompagnés par la Fondation du patrimoine, bien évidemment. Donc nous aurons mieux réussi notre travail encore quand on aura permis de mettre en œuvre quelques moyens qui sont à la disposition de la Fondation, les améliorations fiscales, etc. Et là, nous aurons une complétude, j'allais dire, par rapport à ce qui est mobilisable dans notre pays pour cette préservation du patrimoine.
Jacques Helmet, le président du PETR Midi-Quercy, merci beaucoup.
Et la suite de ce mag du pays Midi-Quercy à propos de plantes aromatiques, médicinales et sauvages, c'est dans le cadre de la chronique Les circuits courts au bonjour qu'on rencontrera le paysan herboriste Frédéric Blondeau.
Yeah.
MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Tous les mois sur CFM, les circuits courts. Bonjour, c'est la chronique de Marie-Agnès Brandy, la chargée de mission alimentation et circuits courts au sein du PETR, à la rencontre d'un agriculteur, d'un éleveur, d'un paysan herboriste. Ça, c'est pour aujourd'hui, à la rencontre de Frédéric Blondeau.
Les circuits courts, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Blondeau, qui est paysan herboriste. C'est quoi, Frédéric, paysan herboriste ?
Eh bien, paysan herboriste, c'est un statut en cours d'homologation depuis déjà une dizaine d'années, qui signifie qu'on cultive des plantes médicinales, qu'on peut être aussi cueilleur de plantes médicinales, et surtout, on transforme les plantes en différentes choses, en baume, en huile, en tisane, etc., en distillation. Voilà, donc c'est un statut qui est porté par le syndicat des simples, qui est un statut national de producteurs de plantes sur tout le territoire français. Et donc c'est en cours d'homologation, c'est pour avoir une définition précise d'un métier qui est existant déjà depuis, je pense, longtemps, très longtemps même.
Et là, on est dehors, dans le jardin de Frédéric. Alors, il y a plein de plates-bandes de différentes plantes. C'est magnifique, d'ailleurs, avec des petits aménagements.
Oui, ça, c'est un jardin, surtout qui a été créé sur le Causse, où il n'y a pas de terre, pratiquement, où il n'y a pas d'eau, puisque c'était une des contraintes de départ de la création de ce jardin-là. Donc, on y retrouve toutes les plantes aromatiques, du genre romarin, lavande, sarriette, thym, toutes les plantes qui n'ont absolument pas besoin d'être arrosées. Et puis, qui, au contraire, quand elles prennent la chaleur, donnent des huiles essentielles qui sont encore meilleures, voilà, qui sont tout à fait adaptées au terroir. À savoir qu'ici, avant, dans la grande prairie qui est devant, il y a eu des lavandes qui ont été cultivées il y a déjà une centaine d'années. Les champs étaient bleus, il faut les imaginer comme ça. Et puis, cette lavande était merveilleuse, puisqu'elle allait jusqu'à Grasse pour composer les parfums les plus fins. Voilà.
C'est une jolie histoire.
Bah ouais. Super. Ouais, il y a même un distillateur qui est décédé il y a peut-être une quinzaine d'années, qui était dans un hameau pas très loin et qui était encore avec ses alambics, qui travaillait il y a déjà peut-être une trentaine d'années au moins. J'étais pas là à l'époque encore.
Et alors, comment vous êtes venu vous installer ici
Eh bien, et comment suis-je venu m'installer ici? Bonne question. Je cherchais un endroit depuis quelques années déjà parce que j'ai fait une formation en plantes médicinales et aromatiques à Nyons, dans la Drôme, et une formation agricole. Et puis, il me fallait un terrain qui soit naturel, parce que j'avais envie de travailler avec le label des simples, c'est-à-dire il y a un cahier des charges qui est assez exigeant, qui concerne en particulier tout l'environnement de la ferme, donc un environnement qui soit le plus sain possible, le plus naturel possible, on va dire. Et puis, en gros, j'ai trouvé ce terrain en 2005 sur Saint-Antonin, où il y a une grande prairie et puis des bois tenants, donc il y a une variété de paysages. Et déjà, rien qu'en considérant la cueillette de plantes sauvages, il y a au moins une trentaine de variétés différentes que je peux récolter sans avoir à faire de culture.
Et ça, vous faites alors de la récolte de plantes sauvages?
Tout à fait. Bien sûr, la récolte de plantes sauvages. Parce que les premières années, le temps d'implanter un jardin, ça demande au moins 3-4 ans avant que les plantes soient capables d'être taillées, etc. Donc les premières années, j'ai fait beaucoup de récoltes naturelles, de cueillettes dans les gorges de l'Aveyron, à la Gourgue, par là, tous ces endroits que j'aime bien. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup l'environnement et d'étudier un petit peu si des fois il n'y avait pas eu trop de modifications au niveau historique dans l'environnement. Parce qu'en regardant comment poussent les plantes, on peut savoir s'il y a eu une carrière à tel endroit avant. Parce qu'on va trouver une plante qui va dominer tout d'un coup. Voilà. Donc il y a eu. Après, j'ai fait pas mal de formations aussi de courte durée, on va dire, pour me spécialiser un peu plus. Dernièrement, j'ai fait une formation en gémothérapie, il y a déjà 5 ans de ça. Là, ça concerne la récolte des bourgeons d'arbres et d'arbustes. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Je ne me rappelle plus quelle était la question.
comment vous étiez installé ici?
Pourquoi? Parce que c'était... Avant, j'étais enseignant pendant une quinzaine d'années en école primaire. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de changer. J'ai envie de retrouver ce qui me tenait le plus à cœur, en fait. Donc, je me suis rappelé de mon grand-père qui m'emmenait dans les champs et puis qui lui-même ramassait des plantes en Bretagne. Je me suis dit, oui, moi, c'est ça que je veux faire, quoi. Mais déjà tout petit, je pense que c'était ça que je voulais faire. Puis souvent, on attend un certain âge. J'ai dû commencer à 40 ans à me verser vers les plantes médicinales. Voilà, parce que j'aime les plantes, tout simplement. Voilà, toutes les plantes. Voilà. Les plantes carrées, les plantes rondes, les plantes vertes, jaunes.
Les petites, les grosses.
Voilà, les petites, les grosses, toutes, c'est bien.
Et du coup, après, vous en faites quoi des plantes?
Eh bien, le plus simple, c'est de récolter les plantes au stade optimum. Donc, c'est à chaque cueilleur de sentir cette chose-là. C'est en fonction de ce qu'on veut faire. Si c'est les lavandes, on va ramasser plutôt les fleurs. Donc, on va attendre que les fleurs soient bien butinées par les abeilles, que le bleu soit bien profond. On les sent, on les goûte. Et puis, quand c'est le bon moment, on les récolte. Une fois récoltées, on les met à sécher dans un séchoir à plantes. Moi, j'ai un séchoir à plantes solaire, c'est-à-dire qui fonctionne, on va dire, du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, en fonction de la météo, avec une ventilation. Et puis, quand il fait vraiment pas très beau, j'ai un déshumidificateur qui vient enlever l'eau en plus. Donc, une fois que les plantes sont récoltées, séchées, eh bien, on les entrepose dans des grands paquets, dans des grands sachets en papier, et puis dans des cartons, pour les mettre à l'abri des mites et de toutes les petites bêtes qui peuvent venir faire des petits trous dans les feuilles. Et puis après ça, on peut composer des tisanes. C'est par là que j'ai commencé, parce que c'était le plus simple, en fin de compte. Il n'y avait pas de transformation véritablement à faire. Donc là, après, il s'agit de créer des compositions avec un thème particulier. Par exemple, si c'est la digestion. Donc on cherche 5-6 plantes qui vont bien ensemble, qu'on a dans notre environnement. Et on va les mettre ensemble en proportion à mesurer, on va dire. Il faut voir en fonction des qualités des plantes et de ce qu'elles ont comme propriétés. Voilà, c'est une petite gymnastique. Et puis, ça, c'est très agréable à faire. Et puis, après ça, on peut aussi les mettre dans l'huile et les laisser en macération solaire pendant 4 semaines.
Ça, c'est les petits flacons que j'ai vus dedans, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Ça, c'est les huiles de macération solaire. En fin de compte, c'est utilisé pour faire des baumes, par exemple. Ou bien comme l'huile de millepertuis qu'on peut utiliser directement sur la peau, le calendula qu'on peut utiliser directement comme ça. Mais il y a beaucoup d'huiles, comme les huiles qui sont faites à base de racines, comme par exemple, je pensais à la consoude, par exemple. La consoude, on va en faire un baume, parce que c'est plus facile à appliquer. Donc on va le mélanger avec de la cire d'abeille. Et donc ça va faire un baume utilisable facilement. Après, il y a plein de possibilités de transformer les plantes. On peut les distiller. On peut faire des teintures mères en les laissant macérer dans l'alcool. On peut faire des macérats glycérinés de bourgeons. Donc là, j'entre pas dans le détail. Voilà, il y a plein de possibilités de transformer les plantes. Et puis surtout, on peut les consommer dans la cuisine au quotidien. C'est quand même le mieux. Le romarin dans la cuisine, c'est fantastique. Le laurier, c'est extra. Donc entre la cuisine et la préparation des plantes médicinales, il y a un lien très étroit, quoi.
C'est la cuisine santé, en fait. On se fait plaisir, en même temps, on fait du bien à la santé.
Ouais, voilà, c'est ça. On estime quels sont les besoins ou quels sont les points faibles de notre corps tel jour, parce qu'on sent qu'il y a un problème de digestion, donc on va choisir des plantes plutôt qui vont nous servir à digérer, bien sûr. Si on a mal à la tête, eh bien, on pourra mettre des camomilles ou des choses comme ça, mais c'est un peu amer, quand même, dans la cuisine. On peut fabriquer des vins aussi, des macérations dans du vin. Ça marche très bien. L'aquilé, par exemple, dans le vin, c'est extra pour faire des sauces ou des choses comme ça, tu vois.
Avant le repas, pendant le repas et après le repas.
Oui, enfin, pas toute la journée quand même, hein, parce qu'il y a des doses à respecter. C'est des produits concentrés. À partir du moment où on concentre une quantité de plantes, que ce soit dans l'huile, dans l'alcool, c'est pour obtenir... c'est un usage, en fait, on va prendre que quelques gouttes à chaque fois, parce que c'est très concentré. Donc les huiles de macération solaire qu'on peut utiliser en cuisine, on va utiliser juste un filet d'huile sur du riz, sur des pâtes et à froid. Voilà, on ne va pas boire toute la bouteille d'huile, ça ne servira à rien. Je crois que ça aurait des effets secondaires un peu gênants, quoi.
Ça, oui. Et vous êtes nombreux dans le secteur à faire ce métier-là ou...
Oui, il y a pas mal de monde. Je crois que aux alentours de Saint-Antonin, il y a au moins une dizaine de producteurs de plantes qui travaillent dans les plantes ou en lien avec les plantes médicinales.
Ah bon.
Quand je parle des alentours, j'entends jusqu'à Najac, en gros, la guépie, Vaour, enfin au-delà, même Cordes et tout ça, mais tout le tour de la forêt de la Grésine, puis celle-ci, la Roque, Montclar. Enfin, tous ces endroits-là, même, comment ça s'appelle, je pense à Marie-Belluard, qui est pas très loin, à Puy-la-Roque. Puy-la-Roque, c'est dans le, enfin, près du Lot, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, c'est sûr. Il y a un problème d'installation au niveau foncier. Pourtant, c'est un métier où on utilise des ressources naturelles, donc il y a très peu d'impact sur l'environnement. Au contraire, c'est plutôt une veille sur l'environnement. Quand on est cueilleur de plantes, on veille à laisser suffisamment de plantes pour que l'année d'après, il y ait reproduction de la plante. Donc c'est quand même une gestion intéressante. Voilà, et bah, je ne sais pas trop.
Après, vous les commercialisez où, du coup vous les trouvez où, vos produits?
Eh bien, en ce qui concerne les tisanes et différentes préparations comme la gémeau, j'en distribue moi auprès des petits supermarchés bio, je pense à Sedona à Caussade par exemple. Après ça, j'ai pas mal de petits magasins qui sont plutôt des lieux comme les petites épiceries sur Vaour, sur Quélus, dans tous les petits villages aux alentours. Parce que moi, j'ai pas une grosse production. Je suis un petit producteur de plantes médicinales. Mais j'ai jamais voulu être un gros producteur de plantes médicinales. Voilà, c'est tout. Parce que c'est beaucoup de travail et j'ai fait en fonction du temps que ça me demandait. Je me suis aperçu qu'à arriver à un certain stade, il fallait pas que je fasse plus parce que j'allais un peu être esclave de mon travail parce que c'est beaucoup de boulot.
Donc on peut retrouver les produits de Frédéric Blondeau, toutes ses coordonnées sur Produits en Pays Midi Quercy, sur le petit guide, et aussi du coup sur le site internet. Comme ça vous pourrez avoir toutes les coordonnées, les endroits où sont commercialisées les plantes, et voilà, et c'est simple, c'est sur internet, vous tapez Produits en Pays Midi Quercy, et en plus vous aurez tous les autres producteurs, donc comme ça au moins, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus on a tout ici, hein. De l'élevage, des céréales, du maraîchage, des produits laitiers, enfin tout ce qu'il faut quoi. Il manquait plus que l'herboristerie, elle est là en plus. Donc, et du vin. Et voire plus si affinité. Et du coup, vous me disiez qu'il y avait bientôt un regroupement, enfin une journée d'information. Est-ce que
ouais.
Vous pouvez m'en dire plus?
Ouais. Bah, c'est, à mon avis, c'est un peu plus qu'une journée d'information. Ça peut être pour certains une journée d'initiation aux plantes médicinales et sauvages. Donc, avec le syndicat des simples, on a décidé d'organiser une journée entière le dimanche 26 septembre à Vaour, dans un charmant petit village que tout le monde connaît dans le coin. Ça, c'est de 10h à 18h. L'entrée est totalement libre. Et donc, ce jour-là, on a convié beaucoup de producteurs de plantes médicinales du coin et d'un peu plus loin, puisqu'il y en a qui viennent d'Ariège, carrément, pour un peu expliquer aux gens et proposer leurs produits qui sont très, très variés. Après ça, il y aura aussi un petit débat sur, justement, le métier d'herboriste, parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. C'est en dialogue avec les services de l'État, tout ça. Quelques démonstrations pour savoir comment achalander un peu une pharmacie familiale avec des préparations simples qu'on peut avoir dans sa pharmacie. Des balades botaniques en voiture, en voilà. Entre autres, une balade qui peut être intéressante sur la musique des plantes. Génial. Où là, il y a une personne qui, avec un système informatique, fait chanter les plantes. C'est très intéressant et c'est joli, en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y aura de la musique aussi en continu. Il y a Losso Keita, qui est un musicien du coin, qui fera une ambiance. Voilà. Donc ça se passe dans le parc de l'hôtellerie des Templiers, à Vaour. Juste à côté de la mairie, en face de la mairie. Et puis il y aura Marco aussi qui fera des comptes pour les enfants. Voilà.
Une journée pour tous. Quoi.
Bah voilà,
tout le monde peut venir.
Tous, voilà. Chacun vient avec son soleil personnel et puis ça fera un gros soleil global. Ce sera parfait. Voilà,
super. Merci beaucoup Frédéric Blondeau. À bientôt.
Ouais, merci.
Frédéric Blondeau était au micro de Marie-Agnès Brandy. Marie-Agnès, la chargée d'émission circuit court et alimentation au sein du PETR. Une chronique à retrouver en podcast sur cfmradio.fr en tapant les circuits courts. Bonjour. Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.